Radio Rageuse.
La webuleuse d'émissions de radio féministe.
Mets le cap sur Mars.
Du 1er au 31 mars,
c'est Live on Mars. Un mois de web radio féministe.
Avec des émissions,
de la musique,
des plateaux en direct
et plein d'autres choses.
7 jours sur 7,
24 heures sur 24,
tu pourras te connecter sur radiorageuse.net.
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 Pour un voyage sur la planète féministe.
Bonjour tout le monde. Du coup, on se retrouve ici aujourd'hui, donc en direct de la DAR. On devait être sur la ZOF, la zone d'occupation féministe sur le Vieux-Port. Mais la pluie n'a pas vraiment eu raison de nous, mais raison du matériel technique. Donc voilà, donc il y a nos Adelphes qui sont là-bas, sur la ZOF, au Vieux-Port.
Ça, oui.
Il y a un petit problème de micro, mais on va régler ça.
Problème technique. La pluie est
vraiment pour tout le monde. Je pense que c'est le patriarcat. Mais...
Ah, c'est mon micro.
Du coup, voilà, nos Adelphes sont là-bas en direct de la ZOF sur le Vieux-Port, donc n'hésitez pas à passer les voir. Et si vous voulez venir nous écouter en direct, on est à la DAR, on a mis des petits coussins, des petits canapés, vous serez bien. Donc voilà, on va faire un plateau féministe aujourd'hui, ce 8 mars, jour de grève féministe, goutte que goutte.
Génial.
Bravo. Du coup, je suis là avec Alice. Alice, comment ça va ?
Eh bien, ça va très bien, malgré la météo nationale, météo patriarcale.
Louise, comment ça va ?
Le temps est pourri, le gouvernement aussi, mais on reste là malgré tout. Là. J'ai encore envie de dire goutte que goutte. C'est mon jeu de mots préféré de ce plateau radio.
Et Lisa ?
Moi, est-ce que mon micro marche ?
Moi ça va, j'ai pas eu le temps de préparer des petits jeux de mots avec la pluie, malheureusement, mais ça va très bien, ravie d'être ici, ravie d'être avec vous.
Donc comment on a pensé ce plateau radio ? On a réfléchi ce plateau radio qui va durer toute l'après-midi, on était donc censé être sur la ZOF, malheureusement on a dû se rapatrier, mais on va rester connecté avec les personnes de la ZOF et on leur envoie tout notre soutien par les ondes et par les fréquences, et donc on va même pouvoir appeler des personnes qui sont sur la ZOF pour qu'on puisse avoir leur parole directe. Ce plateau radio, il va se dérouler de 14h à 17h avec trois temps. Un premier temps, on va revenir sur le contexte local, national et international. Et un deuxième temps qui va plutôt être un temps de débat et de réflexion des perspectives féministes. Et en dernier temps, on va essayer du coup, de rentrer en contact avec la ZOF et de les appeler. Donc voilà. Merci de nous écouter sur tout au long de notre super plateau radio.
Et du coup, vous pouvez nous écouter en direct sur Radio Galère 88.4 et en direct de la web radio Radio Rageuse. Voilà, qui fait un mois 8 mars où vous pouvez écouter des émissions tout le long du mois sur Radio Rageuse.
Ouais, ça c'est trop trop bien, il faut vraiment rester. Donc on est bien sur Radio Galère, sur Radio Rageuse aussi en stream. Aussi, on voulait en profiter pour remercier tout le monde, toutes les personnes qu'on voit pas, qu'on voit pas, c'est normal, c'est la radio, vous allez me dire, logique, qui sont là. Donc il y a plusieurs personnes, on remercie à toutes les personnes qui sont en technique, qui nous ont aidés, toutes les personnes qui nous ont aidés aussi ce matin à transporter le matériel, un remercie à toutes les personnes qui sont à la ZOF et qui tiennent la ZOF, à toutes les personnes qui luttent, et surtout merci aux personnes qui vont venir parler et porter des voix sur notre plateau cet après-midi.
C'est parti.
Vous mettre une petite pause musicale avec le choix de la technique, on vous laisse free. Est-ce que vous voulez nous dire quel son vous allez mettre ou pas?
Anatijuk Somosur.
Ok, on vous écoute toujours en direct de Radio Galère 88.4.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta, ni África ni América.
doctrina se subas. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte.
Cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
On est toujours sur Radio Galère 88.4. On est en direct du plateau qui n'est pas à l'Azov, mais on est le plateau 8 mars. Et on est avec les personnes du collectif Marseille 8 mars pour comprendre un peu comment a été l'organisation de l'Azov. Qu'est-ce que c'est que Marseille 8 mars? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre collectif, votre organisation?
Bonjour.
Bonjour.
Je vais présenter le collectif Marseille 8 mars. On est une interorga, c'est-à-dire qu'on rassemble en fait différents collectifs, associations et individus pour organiser la grève féministe du 8 mars. Mais pas que, puisqu'on cherche aussi à créer des réseaux de lutte et de solidarité à l'année. Et donc on ouvre vraiment la porte à tous les collectifs et individus qui les souhaitent. Vous pouvez nous rejoindre.
Ouais.
Sur le plan national, on a rejoint il y a quelques années la coordination féministe qui rassemble plusieurs initiatives sur le territoire et qui s'organise pour la grève. Mais aujourd'hui, plus concrètement, on organise du coup une zone d'occupation féministe sur le Vieux-Port cet après-midi, dont vous avez déjà un petit peu parlé. Nous, l'enjeu à ce niveau-là, c'est vraiment de se réapproprier l'espace public, de le revendiquer comme un espace ouvert aux femmes et aux minorités de genre. Et du coup, on l'a construite avec différents collectifs féministes intersectionnels et alliés. Et donc, tous ces collectifs vont venir vous présenter leur travail, leur lutte, leur engagement sur le terrain. Il y aura des animations, un atelier banderole, des chamboultous et plein de chouettes espaces, et notamment aussi un espace enfant qui malheureusement à cause de la pluie a été rapatrié au Mamba. Mais si vous avez besoin de faire garder vos enfants pour venir sur la ZOF, c'est tout à fait possible. Voilà, donc nous, c'est comme ça qu'on construit notre lutte, dont l'objectif principal, c'est quand même de détruire le système patriarcal et toutes les oppressions qui y sont liées.
Bah, merci de nous rappeler tout ça. Est-ce que la ZOF, là, est-ce que peut-être tu sais à peu près qu'est-ce qu'il y a comme collectif, ou est-ce que tu peux nous citer un peu les collectifs ? Malheureusement, nous, le plateau radio était censé être sur la ZOF. On fait partie aussi des malheureuses qui n'ont pas pu y être à cause du vent et de la pluie. Mais c'est comme ça, on a un peu un aperçu de qu'est-ce qui se passe là-bas. N'hésitez surtout pas à aller les rejoindre sur le Vieux-Port.
Et avec un bon caoui.
Et des bottes.
Voilà, on a fait des petits tampons, mouillez-vous, pour les personnes qui viennent sur la ZOF.
Trop bien.
Ouais, bien sûr, bah, sur la ZOF, on accueille pas mal de collectifs, certains qui font partie de l'Interorga, et puis d'autres qui n'ont pas forcément pu s'investir dans l'organisation, mais qui sont là aujourd'hui, et c'est super important pour nous. Il y a le collectif, y en a d'ailleurs qui participeront au plateau radio cet après-midi. Il y a le collectif Transat, Urgence Palestine Marseille, la Gynéologie, Nous Toutes, Paye ta pension alimentaire, la chorale féministe Les Rascasses, la riposte antifasciste, Marseille contre la loi Darmanin. Les Minots de Noailles, Adelphi Cité, l'ARCAF et même le syndicat des avocats de France qui vient faire du conseil juridique. Voilà, donc c'est assez diversifié. Je ne les ai sûrement pas tous cités, j'en suis désolée. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de partager un peu nos endroits de lutte.
Et justement, moi, ma question au niveau de cette... comme c'est une inter-orga, comment vous vous situez un peu dans le contexte national avec tout ce qui est monté de l'extrême droite? On sait que le féminisme aujourd'hui, c'est quand même des mouvements qui ont été réappropriés, qui se sont appropriés par plein de collectifs avec des divergences. Comment vous avez envie et vous positionnez aujourd'hui, Marseille 8 mars?
C'est une question qui est hyper importante en ce moment, et on l'a un peu travaillé la semaine dernière avec des camarades de la riposte antifasciste. On voit qu'il y a une vraie stratégie de dédiabolisation de l'extrême droite, notamment avec l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National. Et en fait, on a vraiment vu un argumentaire sur la famille qui s'est rechargé et qui a évolué avec une rhétorique vraiment destinée aux femmes, ne plus les réduire au seul rôle de mère et de gardienne du foyer, et vraiment articuler cette identité à l'identité nationale. Il s'agit vraiment pour eux d'affirmer la valeur de la femme comme mère et actrice de la vie sociale et économique. Et Marine Le Pen se présente d'ailleurs comme une femme moderne qui est divorcée, remariée, mère, et elle se dit même féministe aujourd'hui. Donc là, on voit vraiment que le féminisme qui est défendu par le Rassemblement National et l'extrême droite, c'est un féminisme qui s'oppose à ce qu'on appelle le néo-féminisme, le féminisme de la quatrième vague, et à la théorie du genre, en fait. On a un discours très sécuritaire, en fait. Il faut protéger les femmes contre l'ultralibéralisme, évidemment, qui précarise les femmes, contre la marchandisation du corps, mais surtout contre l'immigration et l'islam. Donc c'est là qu'on voit qu'elle développe une rhétorique vraiment fémonationaliste, avec l'instrumentalisation de nos idées féministes pour servir un discours qui est juste nationaliste et raciste. Et donc on voit que ça s'accompagne par ailleurs pas forcément par un soutien concret, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Il n'y a absolument rien sur les droits des femmes dans le programme présidentiel du Rassemblement national. Et malheureusement, par contre, on voit que c'est une stratégie qui fonctionne, puisque en 2017, et c'est des chiffres qui sont assez proches en 2022, on réalise que 56% de l'électorat du Rassemblement national sont des femmes. Donc il y a plus de femmes que d'hommes qui votent pour le Rassemblement national. Et que 32% des femmes de moins de 25 ans ont voté, qui ont voté pour le Rassemblement national. Donc nous, on voit qu'il y a un vrai enjeu à cet endroit-là. En dehors du RN, il y a aussi des féministes d'extrême droite qui créent des groupes comme les Antigones ou Némésis. Si on a un exemple ici à Aix assez probant de ce collectif, qui ont des liens plus ou moins proches du Rassemblement national, parce que, par exemple, au sein de Némésis, il y a deux militantes qui sont aussi assistantes parlementaires du député Romain Bobry. Et donc qui génère un discours qui s'oppose à la question de la transidentité, qui est un discours raciste, et en fait qui va créer deux ennemis, un ennemi extérieur, donc les migrants, l'islam, et un ennemi intérieur avec la question des personnes transgenres. Du coup, cette instrumentalisation de nos luttes, elle nous questionne beaucoup. On voit qu'il y a une défense de la politique génocidaire d'Israël contre le peuple palestinien. Et donc, enfin, notamment, ouais.
Non, c'est pour recentrer sur la question qui était en tant que collectif, comment vous positionnez. Non, mais du coup, on voit le contexte. Mais ça va déborder sur des questions qu'on va aborder aussi avec d'autres collectifs. C'est pour ça, je veux pas couper.
T'as tout à fait raison. Tu fais très bien de m'interrompre. Nous, du coup, en tant que collectif féministe intersectionnel, il est important qu'on réaffirme nos positions, quand bien même elles seraient encore minoritaires aujourd'hui. Il est nécessaire de faire le lien avec des organisations qui nous ressemblent et avec lesquelles on peut co-construire des luttes, même si ce ne sont pas les luttes les plus visibles ou les plus institutionnelles ou celles qui ont pignon sur rue. On défend un féminisme intersectionnel, et aujourd'hui on n'a pas le luxe en fait de pouvoir ignorer ces oppressions qui nous touchent tous à des niveaux différents. Nous, on est transféministes, on soutient les travailleuses du sexe dans la lutte pour leurs droits, on est antiracistes, antifascistes, afroféministes, queer et décoloniales, et on s'oppose fermement aux discours qui sont islamophobes, validistes, grossophobes ou adultistes. La liste des violences qui est imposée par ce système, elle sera jamais exhaustive, mais je pense qu'on doit, et on pense au sein de nos collectifs, qu'on doit à nos sœurs, à nos adelphes, à nos enfants de conserver cette ligne, parce que c'est la seule qui peut faire avancer la société.
Trop bien. Je voulais pas couper.
Ouais, mais tu l'as fait.
Moi, un bon point. Du coup, merci pour ta réponse, et on voulait aussi voir avec vous, parce que on est le 8 mars, et en fait le 8 mars c'est quand même un jour de grève, c'était pour vous, quel est à quoi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une grève féministe, pourquoi on fait grève, est-ce que ça a encore un but, une logique, un intérêt de faire une grève féministe aujourd'hui? Du coup, je voulais voir avec vous.
Très bonne question. Il y a un appel à la grève, la grève féministe, on appelle à la grève salariée, du travail salarié, enfin on va dire du travail productif, on va dire ça comme ça, et du travail reproductif aussi, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas... M'emmêler là-dedans. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a distingué, qu'on a essayé d'aller travailler cette question de la grève au sein de Marseille 8 mars. On a fait deux ateliers cet hiver sur la question de la grève du travail productif et la grève du travail reproductif, en voyant comment, en fait, ces deux types de travail étaient aussi exploités et imbriqués. Et que l'appel à la grève féministe, pour le 8 mars, c'est effectivement une grève particulière. On appelle, en fait, à une grève massive ce jour-là. On s'inspire de ça. En fait, on répond à un appel qui part au départ plutôt de l'Amérique latine. Enfin, pas plutôt qui parle de l'Amérique latine, où on a vu des grèves massives qui ont amené, par exemple, on a vu en Argentine, il y a une grève massive en 2018 qui a amené en fait à l'acquisition du droit à l'avortement en 2020. On a vu d'autres pays où en fait il y a eu des grandes grèves aussi. On a vu en Chili, on a vu en Espagne en 2018, il y avait 6 millions de personnes dans la rue, qui a amené entre autres, en Espagne, ils ont... désolée pour ces E à la radio, c'est vraiment gênant, mais c'est comme ça. Qui ont donné de la force au mouvement féministe, entre autres pour pouvoir conquérir le droit, une conception du viol qui est basée sur la ley, comment elle s'appelle déjà, Si oui et seulement oui, voilà, qui est une conception du viol, du coup, en disant il y a viol quand il y a absence de consentement, qui n'est pas la définition du viol majoritaire en Europe, et la France a refusé cette conception, cette définition du viol il y a deux semaines là. Voilà, qui s'est opposé à cette définition-là en se mettant à côté de Viktor Orban et de la Hongrie. Voilà. Bon. Je me mélange, je m'en mêle, mais donc du coup en fait on appelle à se reconnaître en fait largement, et on n'appelle pas à la grève juste comme une manière de s'arrêter, mais comme une manière de s'organiser. La grève est de reconnaître du travail partout. De, en fait, on pourrait chausser des petites lunettes et de voir où est-ce qu'il y a du travail. Du travail en fait, ben c'est le travail où on est exploité quand on est salarié ou quand on est auto-entrepreneuse ou quand on est fonctionnaire, etc. Mais c'est aussi à la maison. Alors bon, quand on a des enfants, ça, souvent c'est à ça qu'on peut penser. Mais quand on n'a pas d'enfants, il y a aussi l'exploitation. On reproduit la force de travail pour pouvoir aller travailler. On prend soin de nous, on prend soin de nos amis. Tout ça pour pouvoir continuer en fait à faire marcher ce monde. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait la question de la grève, elle s'articule largement dans le travail productif et reproductif. Même si, en fait, cette division-là, elle peut être tout à fait critiquable, et elle a des fortes limites, cette division binaire. Mais voilà, c'est à ça qu'on appelle. Et la grève comme une manière de s'organiser ensemble, de se reconnaître. Et c'est pour ça qu'on invite à venir sur l'Azov, à venir se rencontrer, à venir voir ce qu'on a envie de faire, se donner de la force et occuper l'espace. Et la grève, elle sert à ça. Et ça ne sert pas juste à s'arrêter. Ça sert à s'organiser.
Bon, merci pour cette réponse sur la grève. T'avais une autre question, toi, Alice ?
Moi, j'étais en train de penser, justement, j'ai vu aussi certains collectifs qui appelaient à une grève de la consommation, aussi pour articuler un peu sur les luttes anticapitalistes. Je ne sais pas si vous avez réfléchi, ou toi, Louise, ou Mars et 8 mars, ces questions-là.
Je ne sais pas, très forte sur la grève de la consommation. Oui, on avait fait l'année dernière, on avait proposé dans le cadre des ateliers aussi du groupe de travail grève au sein de Mars à 8 mars, on avait aussi travaillé sur la question de la grève de la consommation. C'est un axe qu'on a moins retravaillé cette année pour différentes raisons. On allait plutôt se focaliser sur cette division binaire, vive la binarité, désolé. Mais effectivement, en fait, la consommation, c'est faire marcher ce système-là, et qu'en fait, dans la question de la grève, je ne l'ai pas dit juste avant, mais en fait, il y a quand même ce grand slogan qu'on essaye d'amener, et qui vient tout dire de ce que c'est que la grève féministe. Si on s'arrête, tout s'arrête. Et en fait, c'est si on s'arrête de produire, mais en fait, la question de la consommation est dedans aussi, de faire marcher ce système-là. Voilà. Et que ça permet aussi, imaginons, si en fait, on arrêtait toutes de consommer et qu'on était massivement en train de faire ça, ça dégagerait aussi du temps, ça mettrait peut-être moins la pression aussi sur plein de travailleuses qui sont dans des services, la vente, etc. Enfin, voilà, bref, on peut imaginer tout ça.
Okay. Bah, merci pour toutes ces réponses. On va vous laisser retourner à la ZOF sous la pluie et tenir les stands de Marseille 8 mars. Et le stand de Marseille 8 mars, il se représente comment ? Est-ce qu'il y en a un ? Quel track vous mettez dessus ? Comment est votre table ? À quoi elle ressemble.
Sur notre table, vous trouverez des petits flyers grève générale féministe, vous trouverez l'appel imprimé en recto verso aussi, et ainsi qu'un petit tuto recto verso un petit tuto sur comment faire grève, donc encore une fois sur cette question de travail productif et travail reproductif. Il y aura aussi des petits papiers avec des tampons mouillez-vous. Okay. Voilà.
Et même des slogans. Si vous voulez répéter des slogans pour la manif et des chansons pour la manif, il y aura un tract pour le faire.
Super, je vous invite tous et toutes à rejoindre Marseille 8 mars sous l'ombrière et d'aller vous mouiller. On reste tous et toutes sur Radio Galère 88.4 et en direct aussi du stream de Radio Rageuse. On va se faire une petite pause musicale. Je laisse la technique choisir. Est-ce que vous avez une idée du son que vous voulez mettre ? Et juste après, on se retrouve avec le CHO3, un collectif du 3e arrondissement de Marseille pour venir parler avec nous sur le plateau. Vous avez choisi votre musique ou un petit slogan pour nous mettre en... Un petit slogan pour se préparer pour la manif de ce soir.
I
aquí. Soltá más pongo, fue terrorista. Pues nunca estoy fino ir aquí. Siempre se te extremista, llama Hiroshima y Nagasaki. Siempre se te extremista, llama Hiroshima y Nagasaki.
Sur Radio Galère et en stream de Radio Rageuse. Apparemment, il commence à faire beau et du soleil, donc n'hésitez pas à rejoindre sous le soleil grandissant l'Azov et de nous écouter dans vos oreillettes pour toute cette émission qui est sur le 8 mars. Je vais laisser Alice présenter le collectif CHE3.
Rebonjour, donc en effet, on accueille le collectif CHE3. Bonjour, on accueille Amel et Taos. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, c'est un collectif du 3e arrondissement de Marseille qui fait tout un tas de choses super chouettes. Donc, je vais vous laisser le présenter.
Okay. Merci, bonjour tout le monde. Moi, Taous, membre actif du CHE3. C'est quoi le CHE3? C'est un collectif des habitants organisés du 3e arrondissement. Se bat contre les injustices vécues par les habitants de 3e et défend pour leur intérêt. CH3, c'est indépendant par les partis politiques. Et se mobilise sur les problématiques de troisième, des habitants de troisième, comme le travail, le logement, les discriminations, tout ce qui concerne les problématiques des habitants. Le collectif s'est créé le juin 2019, je pense. Et moi, je me suis intégrée de ce collectif la fin 2020. C'est un collectif qui accueille les personnes, les colères des habitants et essaye de créer une trade entre eux.
De quelle colère elle est partie, le CHE3? C'était une des questions qu'on avait.
Oui, c'était à la suite de quel événement particulier vous avez pris l'initiative de créer ce collectif?
Est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que vous étiez en colère et que vous êtes rassemblés?
Non, pas spécialement, mais il y a tellement d'inégalités sur ce territoire et comme à Marseille, quoi. Il y a beaucoup de discrimination, d'accès aux droits, de manque de transport, beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup de colère, effectivement. Et en juin 2019, il y a des habitants qui se sont retrouvés. Ils ont décidé de s'organiser, créer ce collectif, effectivement. Donc le collectif existe depuis bientôt 5 ans. Ouais. On va fêter les 5 ans en juin. Et en fait, il y a des campagnes de lutte. Depuis, on s'est beaucoup formé. On s'est formé au mode de mobilisation. Comment aller taper à la porte de son voisin pour dire quelle est ta colère, qu'est-ce qu'on fait contre ça, faire des formations aussi sur les porteurs de parole sur la place publique. On s'est formé aussi comment sur la prise de parole et sur beaucoup de choses, sur qui nous met la haga, quoi. Parce que dans nos façons d'agir, c'est déterminer la cible, qui c'est qui génère cette injustice et donc comment s'organiser contre ça. Voilà, donc ça a été tout ça, c'est comme formation depuis 5 ans. Et c'est en l'année 2021, ouais, c'est ça, où on a eu une grosse victoire, on était fiers de nous. C'est pendant un an et demi, il y a eu une mobilisation sur la réduction tarifaire pour la RTM, pour les personnes qui ont l'AME. Et donc pendant un an et demi, un groupe s'est mobilisé avec d'autres habitants en allant écrire, interpeller, en s'organisant, en faisant des manifestations devant la métropole et ailleurs. Et ça s'est soldé par une victoire en décembre 2021, justement, pour que le droit à la réduction au bénéfice de 13 000 personnes à Marseille. Voilà, donc depuis, on continue nos campagnes de lutte. Ouais. Tu peux les citer si tu veux, Taos. Ouais. Tu veux mais la campagne, on a la campagne autonomie.
Parmi les autres campagnes du CHE3, on a les campagnes de la lutte, comme la campagne de RTM, la campagne des droits de la ville, la campagne qui concerne les handicapés. Comme
Les AESH actuellement. Voilà. Ouais. Il manque cruellement des AESH sur le troisième.
C'est ça.
Voilà,
c'est
donc on est en train de se mobiliser pour ça, pour qu'il y ait un peu plus dans les écoles, parce que beaucoup de parents se retrouvent lésés.
Il y a un manque de compagnons de leur enfant à les écoles. Donc il y a un groupe qui est fixé pour mobiliser les gens, pour être solidaire, pour comment on peut axer les droits des personnes handicapées dans les écoles. Parce qu'il y a pas mal d'enfants qui manquent de la, comment ça s'appelle, l'AVS, c'est ça là.
Les AVS.
Ouais, les AVS. Oui, ça crée des problèmes pour les mamans. Par exemple, il y a des mamans qui travaillent, donc c'est obligé de accompagner leur enfant à l'école.
Oui, il y a des mamans qui sont obligées de rester dans l'école toute la journée avec leur enfant, par exemple.
Oui, et à côté de les campagnes de la lutte, on a les campagnes d'autonomie autonome comme le groupe de Tuisé. C'est un groupe de femmes qui cuisinent et qui répond sur les commandes de repas et de repas et des gâteaux. Il y a un autre groupe, c'est le groupe de Cultissou. Qui s'occupe de la récolte
des produits agricoles, avec des partenaires et des associations d'agriculteurs solidaires.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Et transformation de ces produits pour les vendre.
Et un groupe qui s'occupe des enfants, et il s'appelle l'espace enfant. C'est un espace créé spécial pour les enfants, pour garder les enfants et pour
libérer les mamans.
Libérer justement les mamans, toute la matinée, entre 10h jusqu'à midi.
C'est tous les mercredis matin.
Oui, c'est tous les mercredis matin. On fait des ateliers pour les enfants, on fait des sorties pour les sorties, les ateliers musicaux, les ateliers théâtre et tout pour eux. Et c'est ça, l'espace enfant.
Voilà, donc en fait, la campagne autonomie, Cultijo Tibizi génère des sous. Et c'est souvent alimenter une caisse de solidarité, au bénéfice des habitants, surtout sur la question de la santé. C'est surtout Tibizi, quand les femmes elles vont cuisiner, ça leur fait une petite rétribution. Donc c'est aussi à la recherche d'une indépendance économique. C'est aussi ça, on veut monter un peu en compétences et peut-être créer une coopérative des femmes qui veulent s'investir là-dedans et donc créer du travail solidaire, mais pas que. Voilà, donc les campagnes d'autonomie et donc d'autres campagnes de lutte qui sont en ce moment, droit à la ville, on se bat pour garder le jardin Leva ouvert et populaire. Qu'il n'y ait pas que des cultureux qui viennent et qui soient dans notre soi, c'est que ce soit aussi aux habitants et surtout pour les habitants. On se bat pour que le tramway qui va passer ne déloge pas beaucoup de familles. On se bat contre le logement indigne. On se bat pour l'accès au droit pour tout le monde. Un meilleur accueil au niveau des MDS, plein de petites choses comme ça qui semblent minimes. Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, on est parti sur beaucoup de choses et on s'est un peu fatigué. Et du coup, là, on s'est un peu recentré. On a vécu un petit peu une crise de croissance là depuis 6 mois, mais du coup, on se recentre et on essaye de cibler, d'être plus forte. Oui, je dis plus forte parce qu'on est 80% de femmes au CHO. Voilà.
Et comment vous expliquez ça, que c'est 80% de femmes? Est-ce que vous avez une piste de réponse ou...
Parce que... Vas-y, réponds.
Parce que la plupart des personnes qui participent, du moment qu'on a besoin de participer, c'est des femmes. Mmh. Ouais, c'est des femmes qui cuisinent, c'est des femmes qui me font mobilisation, c'est des femmes qui font des manifs. On a des hommes, mais c'est pas beaucoup.
Justement, j'en profite parce que quand on s'est vu au téléphone pour parler un peu du collectif, vous m'avez dit justement que ce collectif-là, il y avait une vraie force aussi dans la réponse aux violences qui pouvait être faite aux femmes du quartier, aux femmes du collectif, et que, bah, est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette stratégie de lutte, de protection, comment vous la mettez en place?
Ben, déjà, on essaie d'informer, de rassurer la personne, parce que c'est pas évident de se livrer. Il y a des copines qui ne veulent pas se livrer, c'est pas évident. Peut-être que c'est de un par un, par l'écoute, pour soutenir, par le soutien quasi quotidien. Oh, oui. Et après, c'est expliquer où est-ce qu'on peut aller, quand on est violenté, à qui il faut s'adresser, qu'on a droit à des avocats, et que même si on est sans papier, on peut aller déposer plainte, expliquer les procédures, voilà, faire des groupes de soutien entre nous, soutenir financièrement aussi quand il faut, savoir que quand il y a une mise à l'abri, il y a toujours une ou deux qui proposent d'ouvrir sa porte. Voilà, là, récemment, on essaye de créer un groupe de parole entre nous aussi, ouais. pour parler de ces questions et de créer des solidarités un peu plus. Donc pour l'instant, c'est ça. Après, on a des partenaires avec qui on peut faciliter les choses aussi. Voilà.
Très bien, mais c'est déjà énorme.
Ouais, ouais, c'est pas évident pour... voilà, quand on est violenté et qu'on subit tout seul, alors que quand on rencontre l'autre et qu'on partage aussi son expérience, parce que des fois le partage d'expérience peut aussi donner des forces.
On se sent moins seul aussi, seul, et ouais. ça lutte contre la culpabilisation, je pense, des victimes, de se sentir isolé et de se dire ça arrive qu'à moi. Ouais. Et au final de pouvoir rencontrer des personnes qui ont été violentées comme nous, ou au moins un relais professionnel, parfois c'est difficile d'aller direct vers les professionnels de santé, et c'est pour ça que les collectifs comme vous, c'est précieux.
Merci en tout cas.
Il y a autre chose aussi, je sais que vous avez été quand même aussi beaucoup mobilisé sur la loi qu'on appelle la loi Darmanin. Attention, je vais mettre des guillemets, la loi, c'est la loi immigration, intégration et asile. On préfère peut-être l'appeler la loi Darmanin. On s'en est parlé aussi au téléphone sur l'impact spécifique que ça a pu avoir sur les femmes. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu?
C'est une loi raciste. En premier lieu.
C'est pour ça que j'ai mis des guillemets sur intégration. Oui.
Et puis, bon, donc, du coup, ça cible plus les personnes qui sont en situation de migration et qui, elles, travaillent. On l'a bien vu pendant le confinement que les personnes qui se sont levées le cul tous les matins, à 5 heures du matin, c'est des personnes du quartier nord et des quartiers paupérisés, comme on dit, et qui continuent d'aller travailler parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix, elles enchaînent 3 boulots pour une majorité, aller faire du ménage là, aller travailler dans un resto là et faire 3 chambres d'hôtel par-ci. Tout ça, on en déclaré. Voilà, mais ce travail-là, il est invisible. Et donc, ou alors ça se passe par des alias, etc. Donc, on s'est rapproché de la CNT, par exemple, par rapport à la question du travail, essayer de comprendre maintenant, à décortiquer cette loi et de comprendre ces métiers en tension, comment valoriser déjà ces métiers qui sont, je ne sais pas s'ils sont en tension ou pas en tension, on s'en fout. En tout cas, c'est du travail qui est là et qu'on essaie de rendre visible. Et donc, avec le collectif contre cette loi, on s'est mis ensemble, on a assisté à quelques réunions. Récemment, à Saint-Mauran, au centre social Saint-Mauran, il y a eu une rencontre avec une avocate du SAF. Il y avait beaucoup d'habitants. C'était aussi comprendre cette loi, comment va-t-elle impacter. Et voilà, mais c'est pas fini. Il faut essayer de s'organiser. Là, hier, il y avait une conférence avec des avocats aussi au comptoir de la Victorine, aussi pour essayer de comprendre et surtout la question du travail. Ben, je sais pas si on va arriver un jour à tous ensemble à faire sauter tout ça, mais en tout cas, on y travaille.
Et on espère.
Ouais. On espère.
Très bien. Eh ben, merci le collectif CHO3 de vous être déplacé jusqu'ici à la DAR et sur Radio Galère et Radio Orageuse. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter,
non,
Louise ?
Non, rien, juste dire on lâche rien et on se battra tant que goutte que goutte. Comme on dit. Apparemment, ça sera le slogan de ce plateau.
D'ailleurs, un petit point météo, il paraît qu'il fait vachement meilleur et vraiment plus beau dehors. Donc on espère pour les camarades de l'Azov qu'il y a un petit peu plus de soleil.
Je voulais savoir si vous avez encore des choses que vous voulez rajouter ou des événements qui vont arriver avec le CHO3, vous avez besoin qu'on relaye des infos.
Non, mais juste tout à l'heure, quand j'écoutais les copines qui préparent la grève féministe, je me suis dit peut-être que l'année prochaine, là c'est un peu tard, donc on vous invitera à une assemblée, on a des assemblées mensuelles, et que peut-être parler de la grève féministe et de dire comment venir intervenir et dire, voilà, tenir une table et on pourra vous inviter et on voit 2 mois avant pour commencer à mobiliser aussi. Merci.
Ouais, on
elles disent oui.
Merci à vous.
Oui. Ouais, merci beaucoup. Alors là, attention,
c'est la pause selfie.
On fait un selfie. Allez. C'est pas du tout radiophonique.
La photo est magnifique, vous pouvez pas la voir, mais elle est magnifique.
Merci. Je tiens à préciser que à la DAR, il y a le stand des héroïnes qui sont là et qui tiennent leur stand. Donc venez à la DAR nous écouter. Le kiosque, pardon. Le infokiosque, je sais plus ce que je dis. Il y a l'infokiosque des héroïnes. Donc si d'ailleurs une personne des héroïnes veut courir au plateau et nous expliquer vite.
Il y a quelqu'un qui court.
Ouais.
Oui, parce que nous, goutte que goutte, pas trop, on préfère être au chaud, pas les brochures surtout. Non, du coup, il y a l'infokiosque de la Biblie féministe de Les Héroïnes de Marseille. On est à la DAR, on a plein de brochures féministes, anticarcérales, intersectionnelles. Si vous voulez venir les découvrir, on est à la DAR au chaud.
Bah merci. On se fait une petite pause musicale et on va terminer ce plateau, cette première partie de plateau avec une invitée spéciale. Vous la découvrirez après la musique, choisie toujours par nos super techniciennes.
Donde camino se abren los surcos, a mi semilla que da buenos frutos, dulce para quien me quiere y amarga para quien viene con insultos. Vamos volando muy alto, ustedes pisando el asfalto, si quieren llegar a donde nosotras les falta trabajar tanto. Por nuestro lado estamos armando un ejército, fieras sin fronteras proyectando cosmovisión con el léxico. Puedo ver el futuro, imaginar, crear con ingenio, materializar. Serpiente emplumada existo, aunque no puedan ver mi realidad. Mi rima rifa y reina como la tifa. Si quieres la paz, siéntate a hablar. Ya tengo cargada la pipa, estoy con mi clica. Somos guerreras las que se aplican. Derrumban barreras, prejuicios. Estamos aquí desde los inicios, chica. Me han llamado toda la vida, pero nací para ser grande. Ya no son los tiempos de antes, no voy a dejar que el patriarca me mande. Frente a las masas hablan de ser agentes de cambio, pero en cambio no hacen ni los deberes de la casa. Tan ambiguo, doble moral, me enfrento entre pocos, por eso al final tengo mi propia liga, Alice Millar. Lo llevo a otro plano, supernatural.
Estamos ganando más estilo de la cuenta. Nos viste para abajo y te sentiste en deuda. Tú nos pronosticabas mal augurio, mala pena. El mundo es de nosotras, música está en la azotea. Por eso me lleva a dar ultimátum, no tengo careta. Muy baja tu meta, nacidas para hacer historia aunque gotellera. Numera tus deudas de escuela, no tienes cómo cuando superar a estas nenas. No pase con honores, sus círculos mayores, gran damas, señores, tibiecitos llorones. Somos guerreras, tómala en cuenta, lucha para respirar. Y no me digas que a mí todo se me da. Como descuidas tu puesto de rey, vamos a quitar. Ya no hay salida, a mi respeto se me da. A mis hermanas respeto se le da. Talento de sobra está pa' aventar. Venimos sin miedo a nada. Venimos.
On est toujours sur Radio Galère 88.4 et en direct du stream des Orageuses, de Radio Rageuse, pardon, pour cette émission spéciale 8 mars. On invite toujours tout le monde à rejoindre la ZOF au Vieux-Port ou de venir nous écouter en direct de la DAR au chaud. Pour cette troisième partie, on a Asia Zeino qui fait partie de UPM, mais on va parler un peu de la situation en Palestine. Et pour commencer, je m'étais dit que je voulais lire un texte qui a été écrit par Enda, qui est une militante du Pain et des Roses, et qui je trouvais qui situait bien un peu la situation. Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est que la journée internationale de lutte pour le droit des femmes va se tenir cette année dans un contexte marqué par les guerres, notamment la guerre d'Israël menée contre la population palestinienne. Netanyahou veut placer l'ensemble de la Palestine sous le contrôle total de l'État d'Israël et réduire à néant la population gazaouie. Après plus de 4 mois de guerre, ce sont déjà 30 000 Palestiniens qui ont perdu la vie. Chaque jour, des femmes sont privées de l'accès à des soins vitaux, sont obligées d'accoucher dans des conditions inhumaines et d'autres encore sont victimes de viols, d'humiliations et d'exécutions par l'armée israélienne. Il y a quelques jours, la ministre de l'Égalité d'Israël, Mai Golan, prononçait à la Knesset, le Parlement israélien, un discours visant à marquer son opposition contre tout cessez-le-feu sur la bande de Gaza. Cette déclaration démasque le projet génocidaire du gouvernement Netanyahou, notamment le nettoyage ethnique de la Palestine. Ce discours démasque aussi l'imposture d'Israël, qui se présente comme une démocratie respectable ou une vitrine progressiste au Moyen-Orient sur la question des luttes des droits des femmes et des personnes LGBT. L'État d'Israël peut aussi compter sur le soutien du gouvernement occidental, dont la France, qui fournit du matériel militaire. Nous exigeons ainsi l'arrêt immédiat des bombardements et des livraisons d'armes. La ministre Mai Golan a aussi été en avant-poste de la campagne internationale qui vise à attaquer les organisations féministes, dont du Pain et des Roses, sur leur prétendue indifférence vis-à-vis des violences faites aux femmes israéliennes le 7 octobre, allant jusqu'à les accuser d'antisémitisme. Cette attaque est aussi formulée par notre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes, Aurore Berger, qui a menacé les organisations féministes qui ont soutenu la Palestine de couper leurs subventions. Donc face à ces menaces, nous réitérons notre soutien féministe inconditionnel au peuple palestinien. Voilà, j'ai décidé de reprendre les paroles de Enda parce que je trouvais qu'elle montrait un peu le contexte qu'il y avait en ce moment et en Palestine et un peu en France. Mais avec nous, là, sur le plateau, on a Asia. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter ton parcours et qu'est-ce que... Enfin, voilà, comme tu veux.
Eh bien, bonjour. Moi, je... J'étais en Palestine, je fréquentais la Palestine à plusieurs moments depuis 2011. Je fais des allers-retours de longues périodes, toujours dans le même village qui s'appelle Nabi Saleh. Et je fais différentes choses, mais j'avais écrit un livre avec qui mettait en avant la parole des prisonniers et prisonnières du village des différentes générations qui dialoguaient entre eux. Et puis, quand je suis retournée en Palestine en 2018, quand la fille avec qui j'habitais et sa mère venaient des sœurs qui s'appellent... c'est Ahed Tamimi et sa mère Nariman, sont sorties de prison. Donc, je suis allée là-bas pour les voir. Et à ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup... d'anciennes détenues politiques, de mères des prisonnières qui venaient rencontrer, qui venaient à la fois rencontrer les femmes qui étaient sorties pour prendre des nouvelles de leurs proches à l'intérieur et pour les féliciter de la libération. Et donc, je commençais à réfléchir, à discuter avec elles et j'ai décidé d'écrire, de travailler sur, de faire une thèse sur la résistance des prisonnières palestiniennes dans les prisons israéliennes et en particulier sur tout le système d'auto-formation et des pédagogies, des systèmes pédagogiques clandestins que les différentes générations des prisonnières politiques ont mis en place dans les prisons israéliennes. Et du coup, ça m'a amené à rencontrer beaucoup de femmes qui ont été en prison entre 67 et aujourd'hui et qui m'ont du coup raconté, livré leur récit et raconté leur expérience de vie et de résistance.
Voilà. C'est ce qu'on... c'est ce qu'on voulait mettre aussi là pendant cette troisième partie du plateau. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton travail pour qu'on mette en lumière aussi la mémoire de ces femmes résistantes palestiniennes en prison, comment tu es rentrée en contact et comment tu as récupéré leurs paroles, et est-ce que tu aussi comment il y a eu de la résistance en prison et de la transmission de pédagogie en prison par ces femmes?
Ok, je vais essayer de tout synthétiser. Déjà, moi, je suis rentrée en contact avec ces femmes parce que j'habite avec deux femmes prisonnières chaque fois que je vais en Palestine. Et c'est donc vraiment qu'à travers elles que j'ai pu rentrer en contact avec d'autres femmes qui ont vécu la prison. J'ai été dans une université à Bir Zeit. Je donnais des cours, je suivais des séminaires aussi. Et à Bir Zeit, il y avait beaucoup d'étudiantes, comme beaucoup d'enseignantes, qui avaient été arrêtées. Et donc, c'est un peu à travers ces réseaux d'anciennes prisonnières que j'ai pu rentrer en contact avec des prisonnières palestiniennes. Et donc, ça veut dire des prisonnières de Cisjordanie, des prisonnières de Gaza et des prisonnières de 48, donc des prisonnières palestiniennes qui ont la carte d'identité israélienne parce qu'elles habitent dans ce qui maintenant est devenu Israël. Moi, dans mon travail, d'un côté, c'est pas forcément prendre la question du point de vue des droits humains, des violations des droits humains, de m'interroger si les formes de torture mises en place par Israël viole ou moins les droits humains de ces femmes. C'est vraiment le prendre du point de vue de la résistance de ces femmes, de comment elles s'organisent, de comment elles résistent et de comment elles transforment et redéfinissent la prison en laboratoire intellectuel, politique et révolutionnaire. Juste, vous me faites des signes au niveau du temps parce que voilà, j'ai genre 10 minutes.
Ouais, là, tu as 10 minutes.
Okay. Okay. Du coup, comme dans beaucoup d'autres situations coloniales, la prison joue un rôle central dans la gestion de la population palestinienne. C'est à la fois un mode de gouvernement de la population et aussi un lieu où sont mises en pratique et testées tout un tas de techniques de contrôle, de répression qui vise à anéantir toute volonté anticoloniale. Et toutes ces pratiques sont après revendues aux différents gouvernements occidentaux dans des salons de l'armement, etc. Et c'est aussi en prison que les Israéliens essayent de construire un réseau d'informations sur la population et donc une sorte de fichage de la population des territoires occupés. Et le système créé par Israël pour juger les Palestiniens et les Palestiniennes est un système qui a créé une forme d'apartheid légal sur base ethno-nationale, parce que du coup, sur le même territoire, les Israéliens, les colons par exemple, sont jugés par la cour civile, alors que les Palestiniens par la cour militaire. Et pareil, dans l'État d'Israël même, les Palestiniens de 48, donc les Palestiniens qui ont la citoyenneté israélienne, sont jugés par la cour militaire, alors que les Israéliens juifs par la cour civile. Et donc, ça veut dire que toutes les Palestiniennes sont jugées par un tribunal militaire où le juge, le procureur, les avocats sont tous des militaires. Évidemment, les femmes prisonnières subissent des formes de torture, physiques, psychologiques, des formes de torture basées sur leur assignation de genre. Mais comme dans toutes les situations d'oppression et de domination, il y a toujours des formes de résistance qui se mettent en place. Et donc, à partir des années 70, les femmes s'organisent en prison et créent un mouvement qui est le mouvement des prisonnières palestiniennes, qui fait partie du mouvement plus large des prisonniers et qui a après ses spécificités, parce que les femmes, comme d'habitude, dans le monde, j'ai l'impression, sont beaucoup moins à être en prison que les hommes. Et donc, le fait d'être moins nombreuses à la fois permis des formes d'organisation spécifiques. Par exemple, elles s'organisent de façon beaucoup plus horizontale au-delà de l'appartenance aux différents partis. Et aussi le fait que les femmes soient prioritaire lors de chaque échange des prisonnières, des prisonniers, n'importe quelle partie soit à l'origine de cet échange, fait que à chaque échange des prisonniers, la plupart des femmes sortent et donc le mouvement des femmes prisonnières doivent se reconstituer, se restructurer. Et donc il y a tout un enjeu de transmission des mémoires des luttes et d'organisation qui est très important. Et donc, bon, avec des grosses différences selon les générations, au sein des prisons, les femmes s'organisent à travers des luttes pour les conditions matérielles, donc pour obtenir des papiers, des stylos, pour obtenir des matelas. Elles font de nombreuses grèves pour être séparées des détenues israéliennes de droit commun et revendiquer leur statut de prisonnières politiques. Et elles obtiennent, après une longue grève dans les années 80, le refus de tous travaux à profit de l'occupation, parce qu'elles étaient obligées de coudre les uniformes pour l'armée, de cuisiner pour les matons, et donc elles refusent tout type de travail. Et puis, bah, au sein de la prison, elles arrivent à organiser des formes d'éducation du coup clandestine, à partir du niveau de l'alphabétisation, jusqu'à, et ça c'est récent, au moment où Khaleda Jarrar, une féministe de la gauche palestinienne, est rentrée en prison. Elles ont créé aussi une licence clandestine en droit social, ainsi que le passage du bac et une formation sur les droits humains. Et toutes ces formes d'éducation en prison et des pédagogies permettent pas seulement de concevoir l'éducation comme une forme de résistance, mais vraiment aussi de redéfinir le rapport au savoir, à l'éducation, parce qu'au moment où il faut résister et lutter pour avoir accès aux livres, aux papiers, pour pouvoir tenir en cours, c'est le résultat d'une lutte acharnée, parce que tout ça, ça n'a jamais été des concessions, tout a été arraché par la lutte, bah ça amène aussi à donner un sens différent à l'éducation et au savoir, et aussi au rôle, à comment les femmes peuvent continuer à lutter au sein de la prison et puis en dehors.
Et voilà. Et là, ça avait, est-ce qu'on a encore, on a quoi, on a 3-4 minutes. Dans une de tes anciennes prises de parole, tu disais à un moment donné que c'est aussi, pour les Palestiniennes et les Palestiniens, nombreux ont fait l'expérience de la prison, parce qu'en fait, la prison, c'est aussi un outil colonial pour mobiliser les personnes. Tu me coupes, hein, si je t'explique mal. Hein. Et donc, c'est aussi comme beaucoup de personnes ont fait l'expérience de la prison, c'est comme ça que des personnes se sont... au sein de la prison se sont transmis ces savoirs-là, ces manières de lutter-là. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce que je dis, mais...
oui, c'est, la prison a aussi permis, en tout cas l'action de prisonnières palestiniennes au sein de la prison a aussi permis...
On a toujours... Et celui-là, un, deux.
C'est bon, je crois. c'est aussi un endroit où, pendant très longtemps, c'était un peu le seul endroit où des Palestiniens de Gaza, des Palestiniens d'Israël et des Palestiniens de Cisjordanie pouvaient se rencontrer. C'est un endroit où se rencontrent à la fois des jeunes femmes qui ne sont pas organisées politiquement, des avocats, des journalistes, des femmes agricultrices. Et donc, c'est vraiment un endroit où il y a une transmission et un partage des savoirs, à la fois des savoirs pratiques. Par exemple, il y avait beaucoup de prisonnières qui me racontaient comment elles ont appris à soigner avec de la médecine traditionnelle apprise par les anciennes, toutes les femmes qui arrivaient en prison en étant blessées parce qu'elles avaient des balles dans le corps qui n'étaient pas soignées. Et puis à la fois aussi le fait de... Parce que dans la prison, on s'organise par comité. Du coup, il y a à la fois le comité, par exemple, le comité de la bibliothèque, le comité culturel qui organise donc toutes les activités culturelles et les programmes culturels, un tribunal interne pour gérer les conflits internes, un comité qui s'occupe d'organiser plutôt... le temps libre et du coup réaliser des spectacles théâtrales, des danses, etc. Donc des élections pour élire la responsable de prison, parce qu'il faut... Enfin, le but, c'est vraiment de créer une structure de contre-pouvoir qui permet de contrer l'administration pénitentiaire et de ne jamais s'adresser à l'administration pénitentiaire pour ne jamais donner la possibilité de diviser les prisonnières. Et donc, la prison devient aussi un lieu de pratique politique, parce que les prisonnières deviennent donc représentantes, participent aux élections et prennent donc des engagements qui se fortifient au sein de la prison. Et juste pour finir sur les 7 octobre et après les 7 octobre. Donc après le 7 octobre, une des premières réactions israéliennes le 7 octobre, ça a été de cibler justement les prisonnières. La représentante a été isolée, les cellules des prisonnières ont été attaquées avec des chiens et du gaz lacrymogène. Depuis le 7 octobre, toutes les prisonnières sont soumises à des formes de torture et d'humiliation. Elles sont fuyées à nu tous les jours. Il y a des menaces de viol, d'harcèlement. Il y a eu des formes de viol et d'harcèlement au sein des prisons. Les femmes sont prises en photo sans hijab et sont partagées dans les comptes des soldats et dans tous les réseaux sociaux. Et il y a une politique de famine aussi au sein des prisons. Les femmes sont privées des serviettes hygiéniques. Elles ont les mêmes sous-vêtements depuis le 7 octobre. Elles sont privées d'eau, de toute communication avec les familles, avec les avocats. La radio, qui était un des outils qui permettait de briser l'isolement et permettait aux familles et des anciennes camarades de parler en prison, ont été confisquées. Donc, c'est important de dire que toutes ces formes de violations et de pratiques existaient déjà avant le 7 octobre. Ce sont des pratiques courantes, mais là, elles se sont intensifiées. Mais l'histoire du mouvement des femmes prisonnières palestiniennes, qui d'une certaine façon, c'est le reflet aussi de la lutte anticoloniale palestinienne, montre que face à toutes ces formes de domination et des nouvelles formes de répression, il y a toujours des nouvelles formes de résistance et des moyens créatifs et différents de résistance qui vont ressurgir jusqu'à la libération de tous et toutes les prisonnières et de la Palestine. Et je finis.
Voilà. Merci pour ce discours
Merci
précieux.
Merci beaucoup. Merci Asia d'être venue sur le plateau pour le 8 mars. C'était super intéressant. On va continuer le plateau radio. Cette fois-ci, ça sera Yama et Lisa qui vont tenir le plateau. On est toujours donc en direct de Radio Galère et de Radio Rageuse sur le stream. On vous invite tous, et on n'arrête pas de le dire, d'aller rejoindre l'Azov au Vieux-Port.
J'ai l'impression qu'il fait vraiment meilleur là.
Ouais, donc, il fait super
c'est
bon,
le moment d'investir l'Azov.
C'est le moment d'investir. Merci à toutes les personnes qui sont venues pour ce premier plateau, que ce soit pour Massa et 8 mars, le CHO3 et toi aussi, Asia. On se fait une petite pause musicale, le temps de changer de plateau. À vous, à la technique, qu'est-ce que vous nous choisissez?
Un petit slogan, on se chauffe.
Allez, pour la manif.
hombres malos en la calle, yo sigo así, no me importa porque nací berraquita. La fuerza corre en mi sangre, la sangre de mis ancestras son las mujeres peleonas que han luchado para sobrevivir. A mí me gusta por ser mujer, pero yo nací en este cuerpo.